Nous arrivons aujourd'hui aux évangiles. Alors, on sait que le mot évangile, ça vient des mots grecs qui veulent dire bonne nouvelle. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où c'est plutôt les mauvaises nouvelles qui abondent. Quand c'est pas le sida, c'est la pneumonie atypique. Quand c'est pas la guerre, c'est le chômage. Quand c'est pas le chômage, c'est les scandales. C'est la faillite du système social. La bonne nouvelle, elle est une bonne nouvelle que si elle est partagée. Mais pour la partager, il faut d'abord la connaître. Et les évangiles, il y en a quatre, comme vous savez, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On parle aussi d'autres évangiles, selon Thomas, selon Clément, mais ce sont des livres non inspirés, ce qu'on appelle les livres apocryphes. Les évangiles, ce ne sont pas des biographies, c'est-à-dire que ça ne part pas de toute la vie de Jésus, mais ça se centre sur son ministère public, un ministère qui n'a en fait duré que près de 3 ans. Les évangiles parlent d'abord de la venue du précurseur, du Messie, Jean-Baptiste, qui était celui qui devait l'annoncer, et puis de la venue de loin de Dieu du Messie, du Christ en grec, Christos. Messiah, Messie, c'est la même chose, c'est celui qui est oint par Dieu. Jésus-Christ est venu en accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Est-ce que, David, tu pourrais voir si tu peux ajuster un peu le son là. Je crois que ça fait pas un peu d'écho là. Je vois Nina qui a du mal, non? Ça va? Tu veux voir un peu ça? Donc les évangiles, ce ne sont pas des biographies, mais ce sont des récits du ministère public de Jésus-Christ. Et à l'époque, on comptait beaucoup sur le témoignage des témoins qui avaient vu Jésus. Tu peux éviter peut-être, il y a un bouton qui, pour l'écho, qu'il faut mettre pratiquement à zéro. C'est à gauche. Non, c'est plutôt de ton côté, c'est à ta gauche complètement. C'est un petit bouton blanc. C'est sur toute la série des boutons là. Est-ce que c'est mieux comme ça? 1, 2, 3, c'était mieux. On va lire la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob en engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pérès et Zéra. Pérès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. C'est mieux, non? Il y a moins d'écho là. Ça va mieux? Désolé. Hein. Isaïe engendra David et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. En fait, les 3 premiers évangiles, on les appelle des fois les évangiles synoptiques, pour dire qu'ils ont à peu près la même façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'ils décrivent à peu près les mêmes événements, et ils ont une similitude aussi dans le choix du vocabulaire qu'ils utilisent. Par contre, l'évangile de Jean est un évangile plus original dans sa composition et dans les événements qui sont décrits. On y reviendra à la fin. En fait, lorsqu'on a étudié l'Ancien Testament, ça se termine par cette période de silence de 400 ans. Et on peut dire que l'Ancien Testament, il est incomplet dans le sens où il reste des rituels religieux qui ne sont pas bien expliqués. Il y a des alliances qui ont été faites avec les patriarches au cours de l'Ancien Testament, des alliances qui ne sont pas achevées. Il y a des choses que les gens espèrent dans leur cœur qui ne sont pas encore satisfaites. Et surtout, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et vous vous souvenez de cet après-midi de Pâques où Jésus a fait une étude biblique de 10 kilomètres, une étude sur la route d'Emmaüs, où il a expliqué qu'en fait, toute la parole de Dieu, en fait, elle était à son sujet. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, ce qui le concernait, sans qu'il l'ait encore reconnu. On a donc quatre auteurs humains inspirés par l'Esprit Saint. Matthieu, qui était un juif, un lévite, qui lui va présenter Jésus aux Juifs, il va le présenter comme le Messie d'Israël. Les Juifs attendaient ce Messie, ils voulaient un Messie triomphant. Il va leur expliquer qu'en fait, il est d'abord venu comme un Messie pour un serviteur souffrant. Mais c'est surtout Marc qui va présenter Jésus aux Romains et aux Grecs, mais surtout aux Romains, comme le serviteur qui souffre. Marc, on a dit des fois que c'était l'évangile de Pierre, parce que c'était un collaborateur de l'apôtre Pierre, et si Marc n'était pas évangéliste, il avait cette autorité d'apôtre parce qu'il était en constant contact avec l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez, on a dit que dans l'Ancien Testament, on déterminait l'inspiration des écrits par leur aspect prophétique, par leur autorité prophétique. C'est-à-dire qu'il fallait que le livre ait été écrit par un prophète qui était reconnu comme tel parce qu'il avait annoncé des choses dont certaines s'étaient réalisées à la lettre. Donc Matthieu, il le présente Jésus aux Juifs, Marc le présente aux Romains. On a dit des fois que l'évangile de Marc, c'était un peu un évangile pour les gens pressés qui prenaient le métro à Rome. Alors, il n'y avait pas de métro, mais c'est le style, vous le verrez, ou si vous le connaissez, vous savez que c'est un style très rapide, c'est un style journalistique presque. Luc, c'était un médecin grec qui était un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Lui, il le présente aux Grecs comme le fils de l'homme. Luc, le médecin, est impressionné de voir que le Messie est venu comme un homme, en tant qu'être humain, et qu'il a été soumis aux maladies, aux fatigues de la nature humaine. Et puis finalement, Jean va présenter Jésus essentiellement à l'Église comme étant le Fils de Dieu. Et donc, on voit que chacun de ces évangiles a une audience un peu différente, un dessin un peu différent. Et on peut se réjouir qu'on ait ces quatre évangiles qui nous permettent d'avoir une vision en stéréo, stéréoscopique, parce que les mêmes événements, pour certains, sont décrits de différents points de vue, et on peut, avec ces quatre évangiles, vraiment avoir une idée très précise de ce qu'a été le ministère de Jésus. Alors, les évangiles sont structurés en fonction un peu de leur objectif, notamment en ce qui concerne les généalogies. Matthieu, en bon juif, il va commencer par Abraham, le père, l'ancêtre de la nation juive. Et la généalogie qu'il donne au premier chapitre, c'est la généalogie légale de Jésus-Christ. C'est ce que j'avais commencé à lire. On était arrivé au roi David qui avait engendré Salomon. Et on arrive à Joseph, qui est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, verset 16. Marc, il n'y a pas de généalogie dans Marc. Et ce n'est pas tellement surprenant parce qu'on se soucie peu de la généalogie, du pédigré d'un serviteur. Hein, s'il est là pour servir, on ne va pas lui demander d'où vient sa famille, on le fait bosser. Luc, encore une fois, c'est le docteur, et lui, il va commencer sa généalogie au chapitre 3 de l'évangile de Luc, c'est au chapitre 23 du chapitre 3 de Luc. Il commence non pas par... il remonte pas à Abraham, il remonte, lui, à Adam. Adam, qui était le fils de Dieu. On a tendance des fois à dire que tous les hommes sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu. En fait, lorsque c'est utilisé dans la Bible, la notion de fils de Dieu, il y a toujours la notion d'une création directe de Dieu. Donc Adam, il a vraiment été une création directe de Dieu. Les anges qui sont créés par Dieu, souvent ils sont appelés aussi fils de Dieu. Et nous ne pouvons être fils ou filles de Dieu que si nous sommes recréés par Jésus-Christ. En venant à lui, nous sommes une nouvelle création, de Corinthiens 5, 13. Donc Luc, qui est docteur, lui, il va jusqu'à Adam, l'humanité, et il va montrer les liens du sang. On va y revenir un peu plus tard. Jean, en fait, il y a une généalogie. On ne pense pas souvent qu'il y a une généalogie dans Jean, mais le prologue commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et là, c'est un peu la généalogie divine de Dieu. Avant même qu'il ne vienne s'incarner, Dieu existait puisqu'il était au commencement avec Dieu. Il y a cette coexistence avec Dieu depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, qui nous montre qu'en fait Jésus est vraiment Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, on parlait souvent du successeur de David, qui allait venir régner sur la terre, dont le royaume n'aurait pas de fin. Ésaïe 55, je crois, on avait déjà vu ça. Entre autres, hein, il y a de nombreux passages. Il va conclure, Dieu dit qu'il va conclure avec nous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Et ça, c'est toujours cette descendance qui doit venir de la lignée de David, la descendance royale. Et Jésus devait arriver donc par cette descendance. Il devait être le fils un descendant aussi de Salomon. Or, on sait qu'avec Salomon, il y a eu la division du royaume, après, entre Réhoboam et Roboam, avec le royaume du nord, le royaume du sud, Samarie, Jérusalem, l'Israël, la Judée, 521 et 586, la Syrie et Babylone. Il faut que ça soit des choses un peu comme les notes de musique, hein. On ne peut pas faire de la musique si on ne sait pas que le la vient après le sol. Et l'idée de faire cette revue d'ensemble de la Bible, c'est pour mettre un peu les choses en ordre. La généalogie de Jésus, on a un problème, on l'a évoqué un peu, c'est que si on regarde dans Matthieu, si vous voulez revenir au début du Nouveau Testament, Matthieu, il est dit qu'après dans la descendance qui vient de David par Salomon, Roboam, on a plusieurs rois, passant par Ozias, Ézéchias qui donne naissance à Manassé, Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shealtiel qui engendra Zorobabel, ça c'est le verset 12. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette descendance, elle a reçu une malédiction de la part de Dieu. Dans Jérémie 22, 30, On va garder ça parce que c'est un passage très important qui explique pourquoi dans la... Il y a certains passages de l'Ancien Testament, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais quand on voit l'ensemble, et que soit on le voit tout seul, soit quelqu'un nous le montre, on s'aperçoit qu'il y a une raison, il n'y a pas un passage qui est là par hasard dans la Bible. Le prophète Jérémie au chapitre 22, et Dieu est fatigué des bergers infidèles, des mauvais rois qui se succèdent dans la maison royale de Juda. Verset 24. « Je suis vivant, oracle de l'Éternel, quand Koniaou, c'est la même personne que ce Yekonia, en fait, fils de Yehoiakim, roi de Juda, serait une bague à ma main droite, je t'arracherai de là, pardon. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans cet autre pays où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils porteront leur désir pour y retourner, ils ne retourneront pas. » Verset 28. « Est-il donc une image méprisable et brisée, ce Koniaou ? Est-il un objet qu'on n'apprécie pas ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa descendance, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. » Donc là, certains pensent qu'à ce moment-là, il doit y avoir la fête chez Satan. Ils ont dit, là, Dieu vient de faire une grosse bourde. Il y avait la lignée royale qui devait amener le Messie. Et maintenant, il vient de maudire cette descendance en disant que jamais par cette descendance n'arrivera quelqu'un qui pourra s'asseoir sur le trône de David. Ça, c'est... Donc c'est la même personne, ce Koniaou ou Yekonia du chapitre 1 de Matthieu, c'est la même personne. Et c'est là que c'est intéressant de voir qu'en fait, lorsqu'on regarde la généalogie de Luc, alors juste une petite parenthèse, là il est dit que... Verset 16 de Matthieu 1, il est dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il est important de noter qu'il dit qu'il est né de la part de Marie, non pas de Joseph. Le père, ce n'est pas Joseph, c'est l'Esprit Saint qui a conçu l'enfant Jésus-Christ. Et donc, Joseph, on voit ici que son père, c'est Jacob, c'est un dénommé Jacob, verset 16. Si on regarde Luc, au chapitre 3, à partir du verset 23, il est dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et là, on pense que ça peut être... Jésus était donc le fils de Joseph, mais Joseph, lui, n'était pas le fils de Jacob, il était le fils d'Élie dans cette généalogie. En fait, l'expression qui est traduite ici par « comme on le pensait », c'est l'expression qui a à sa racine le mot « loi », et c'est un peu comme on dit en anglais « he is the father-in-law ». Et en fait, Élie, là, c'est le père, le beau-père de Joseph. Et la descendance pour remonter à David, elle se fait donc non plus par Joseph, par le père, mais par Marie. Et Marie, elle, c'était la fille d'Élie. Donc en fait, on voit que la descendance légale, elle passe par Joseph, mais la descendance physique, elle passe par Marie. Et vous vous souvenez peut-être, dans l'Ancien Testament, on avait parlé des filles de Tselophade. Pas des filles en cellophane, c'était les filles d'un dénommé Tselophade qui n'avait pas de fils. Et ces filles s'étaient dit, si on suit les règles de l'héritage normal, on va perdre tout le territoire de notre père. Alors elles étaient allées avec beaucoup de courage demander à Moïse de voir si elles ne pouvaient pas avoir un héritage, s'il n'y avait pas de garçon dans la descendance. Et Moïse avait prié Dieu et l'Éternel avait répondu, oui, elles doivent hériter du territoire de leur père. Donc par cet événement, les filles de Tselophad, l'héritage peut passer par la femme. Et Marie est au bénéfice de cet héritage et Jésus peut être ainsi le descendant de David sur le trône de David sans passer par la descendance légale de Joseph. Et cette lignée qui a été maudite dans Jérémie 22. Alors ça c'est un peu pour montrer qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la Bible. Et on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille de Tselophad et pourquoi on prend la peine d'en parler. En fait, tout le fait que Jésus est le Messie dépend de cette disposition de la loi de l'Ancien Testament qui avait été ajoutée par l'Éternel à la demande de ces filles de Tselophad. Donc, on a dit que. Et donc, finalement, Satan. D'autant que ça revient à la Genèse 3.15, il était dit que c'était la semence de la femme qui allait écraser la tête de la descendance du serpent. Genèse 3.15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot qu'on utiliserait pour sperme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et en fait, c'est une allusion directe à cette généalogie par Marie, dans le sens physique. Et le fait que ce soit le Saint-Esprit qui était le Père a fait que. Apparemment, c'est une façon pour Jésus d'avoir été conçu sans péché. Comme si le péché, on est tous porteurs du virus du péché, et ce péché passait par l'homme. Il est entré par Adam, et il a fallu que Jésus soit sacrifié pour mettre une fin à cette hérédité obligatoire. Matthieu, c'était donc lui qui présentait le Messie comme le roi des Juifs. Et lui, il va insister sur ce que Jésus a dit. Si on enlève les discours de Jésus, l'évangile de Matthieu, il est plus court que l'évangile de Marc. Mais vous savez qu'il y a des grands passages, il y a des grands sermons, des grandes explications. Il y a le sermon sur la montagne, il y a les paraboles, il y a le discours de l'Olivier ou de Mont des Oliviers. Marc, lui, encore une fois, il va insister sur ce que Jésus a fait. Il va être toujours en train d'écrire, et maintenant voici ce que Jésus fit, il alla ici, il allait, partait, il bougeait. Luc, le docteur, lui, va insister sur ce que Jésus a ressenti, comment il a vécu son ministère et comment il a eu la compassion pour ce qu'il avait voyé autour de lui. Jean, lui, il ne va pas insister sur ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a ressenti, mais surtout sur ce qui était Jésus. C'est l'évangile qui nous montre la pleine divinité de Jésus-Christ. Les premiers miracles qui sont décrits dans les évangiles sont un peu fonction de ce dessein. Par exemple, Matthieu va parler du lépreux qui a été guéri. Ça, c'était un grand problème pour les Juifs. La lèpre, c'était comme un signe de péché. Pour Luc et Marc, ça va être des démons qui vont être chassés, ça pour les païens. Et puis, pour Jean, le premier miracle, premier signe, comme ils disent, ça va être les noces de Cana, où l'eau est transformée en vin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'eau, c'était sans doute l'eau de purification du temple. Et que ça, par là, il montrait qu'il était au-dessus des cérémonies, des rituels du temple. Et il fallait être un de ses disciples pour voir le miracle. Parce que si on n'était pas en train de servir l'eau qui était transformée en vin, on ne s'apercevait même pas qu'il y avait eu un miracle. La façon dont les évangiles se terminent, c'est aussi un élément en fonction du dessein de l'évangéliste. Matthieu termine par la résurrection. Ça, c'était un sujet très, très juif. On a dit que les pharisiens y croyaient, que les sadducéens n'y croyaient pas. Marc, lui, va terminer par l'ascension de Jésus. Toujours l'action, il part au ciel, intercéder pour nous. Luc va terminer par la promesse de l'Esprit-Saint. Ça va nous préparer au deuxième livre de Luc, le livre des Actes, qui commence par la Pentecôte, où l'Esprit-Saint vient sur les apôtres pour les rendre capables de prêcher la bonne nouvelle dans le monde de l'époque. Jean, lui, termine par la promesse du retour de Jésus. Ça nous prépare à l'Apocalypse, l'autre livre que Jean a écrit aussi à côté des lettres. On a souvent fait référence à quatre animaux, le lion, ou plutôt des êtres vivants dans l'Apocalypse, notamment l'Apocalypse 4-7, où il est question de quatre êtres vivants qui se trouvent dans les cieux. Autour du trône, il y en a un qui est semblable à un lion, un autre qui est semblable à un veau ou à un bœuf, l'autre qui est comme un homme, et le quatrième qui est comme un aigle en plein vol. On a retrouvé ça dans Ézéchiel, où il y avait aussi des êtres qui avaient, un avait une face d'homme, l'autre une face de lion, où tous avaient plutôt une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle. Ces quatre animaux reviennent. C'est aussi, alors là on n'a pas de preuve biblique, mais c'est la tradition qui explique que lorsque les Israélites campaient dans le désert, dans le tabernacle, ils se mettaient plutôt autour du tabernacle, et il y avait quatre points cardinaux. Au début, au nord, c'était la tribu de Dan, qui elle avait un étendard qui représentait un aigle. À l'est, il y avait la tribu de Juda, qui a été représenté par un lion. Au sud, c'était la tribu de Ruben, qui avait une tête d'homme sur leur étendard. Et à l'ouest, c'était Ephraïm, qui avait une tête de veau. Et on retrouve donc cette constance dans ces symboles. Et on a déjà évoqué l'idée que l'homme, c'est l'évangile de Luc. Le serviteur, c'est le bœuf ou le veau, c'est Ephraïm. C'est Ephraïm, donc c'est Marc, le serviteur. L'homme, on a dit que c'était Luc. Il est souvent question du fils de l'homme. C'est un titre qui revient constamment dans l'évangile de Luc, qui a son origine dans les écrits du prophète Daniel. Daniel 7, je crois. Et puis, l'aigle, ça représenterait la divinité de Jésus, ça représenterait l'évangile de Jean. Donc il y a une espèce de corrélation qui est intéressante pour voir un peu ces quatre aspects. Encore une fois, c'est pas votre salut ne dépend pas d'être d'accord sur ces quatre aspects des évangiles, mais ça vous permet de vous rappeler un peu du style et du caractère de chacun des évangiles. On va voir un peu les évangiles un après l'autre maintenant. Quel est le grand événement qui s'est passé après la mort de Christ? Oui. Et après sa résurrection et son ascension? Oui. Naissance de l'Église. Et au point de vue historique, en 70. Et du temple, hein. Donc ça, c'est un événement historique. Et dans aucun des évangiles, il n'est fait allusion à cette destruction du temple comme un événement passé. Donc c'est une date butoir. On sait que la plupart des évangiles ont été écrits avant l'an 70. Les quatre évangiles ont été écrits avant l'an 70. Certains pensent que peut-être Jean aurait pu être écrit un peu après, mais on s'accorde en général à penser que le premier, ça a été l'évangile de Marc, suivi par Luc, Matthieu et Jean. Donc ça, c'était, c'est intéressant pour dater les, un peu les, la chronologie des choses. Matthieu, on sait que c'était, qui est appelé aussi Lévi, c'était un traître aux yeux de ses compatriotes parce qu'il était employé comme fonctionnaire aux impôts des Romains. Et en fait, il était un peu un traître à la cause de son pays. Il pouvait forcer ses frères à payer un impôt à l'occupant qui était méprisé. Et c'est vrai que Jésus, en le nommant comme apôtre, a montré qu'il n'avait pas de mépris pour lui. Ça a dû être une merveilleuse chose pour Matthieu que de se sentir choisi par Jésus-Christ. Matthieu connaissait bien donc l'Ancien Testament, étant juif Lévi, les quatre évangiles. Le thème, encore une fois, c'est Jésus-Christ comme roi des Juifs, comme le Messie. Ça commence par, on a vu par la généalogie, le titre de roi des Juifs est souvent utilisé. Dans le chapitre 2 de Matthieu, il est question des rois mages. Qui étaient ces rois mages? En fait, il est intéressant de savoir que il y avait un reste à l'est de la Palestine, de la terre d'Israël, de l'Empire perse, qui s'appelait les Parthes. Et les Parthes se disputaient avec les Romains la Palestine, le territoire d'Israël, la terre promise. Les Romains avaient d'abord conquis la Palestine, je crois que c'était en l'an 48 avant Jésus-Christ, mais ils l'avaient reperdue aux Parthes. Et le roi qu'ils avaient nommé, c'était le roi Hérode, qui lui descendait des Idouméens ou des Édomites, donc de la tribu d'Ésaü, et non pas de Jacob. Lui avait séjourné pendant longtemps à Rome, en fait. Il était roi d'un pays, mais il était à Rome, il était chez les envahisseurs, parce que c'était trop dangereux de rester à Parthes, en terre promise, à cause de ces Parthes. Et ces rois mages, en fait, on pense que c'était de... Alors, il n'y en avait pas trois, ça c'est la tradition qui dit trois. Il y avait trois cadeaux, il y avait la myrrhe, l'encens et l'or. Myrrhe, encens et or. C'était les descendants des grands satrapes perses. Ils étaient tous perses sauf un. Qui avait été roi mage, quelque part, avait obtenu ce genre de position? C'était le prophète Daniel qui avait servi un peu. C'est pour ça que on avait essayé de le coincer, de le brûler dans la fournaise. Tout ça, c'était parce qu'il avait obtenu le même statut qu'eux. Le roi mage, on retrouve ça dans Magistrat, c'était... Et là, il venait chercher le roi des Juifs. Et Hérode, une fois qu'il était revenu après que les armées de... C'était Pompée plutôt. Vespasien, c'était... Moi, je crois que c'était Pompée. Ils avaient repris la domination de la terre promise avant que Jésus ne naisse. Et ils avaient entendu parler donc de ce roi des Juifs qui devait naître. Et lorsqu'ils demandaient à Hérode, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem en demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître, c'est... Le roi Hérode est tout inquiet parce qu'ils ne sont pas venus trois, ils avaient sans doute des troupes avec eux. Et ça montrait qu'il cherchait le vrai roi des Juifs, que lui c'était un espèce d'imposteur, un idouméen qui avait le pouvoir. Mais c'est toujours cette idée du roi des Juifs, le vrai roi des Juifs. Il est aussi souvent question, encore une fois, du fils de David, qui a un titre messianique, plus que dans les autres évangiles. Le mot « royaume » apparaît près de 50 fois. Et encore une fois, il y a ces grands discours, il y a le sermon sur la montagne, des recommandations aux disciples au chapitre 10, lorsqu'il leur dit comment partir en mission. Il y a les paraboles du royaume des cieux au chapitre 13. Si vous cherchez les paraboles, c'est Matthieu 13, en général. Il y en a par ailleurs, mais chapitre 18, c'est les principes de base pour l'Église. Et puis 24-25, c'est le discours prophétique sur la fin des temps du mont des Oliviers. Une phrase clé, c'est l'expression « afin que les Écritures soient accomplies ». Ça revient 18 fois. L'évangile de Matthieu fait des citations directes de l'Ancien Testament 130 fois. C'est vraiment pour montrer que cette personne qui est arrivée à Jérusalem, c'est bien l'homme, Dieu, qu'ils attendent depuis des siècles, dont l'Ancien Testament parle en prophétie, et les Écritures sont accomplies. Donc il y a deux sections, il y a jusqu'au chapitre 16, c'est un peu la présentation du roi et de son royaume, puis son rejet par les Juifs, et puis la deuxième section, 16 à la fin, chapitre 28, 20, c'est le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile selon Marc, encore une fois, c'est fait pour les gens qui lisent rapidement dans le métro. Il n'y a pas de long discours, mais il y a beaucoup d'actions. Marc ne parle jamais de lui-même, il n'est pas mentionné dans les évangiles, sauf peut-être dans Marc 14, où il est question d'un jeune homme qui suivait Jésus de loin lorsqu'il avait été attrapé par les Romains. Et qui, à un moment, pour échapper aux Romains, doit laisser le drap qui le recouvrait et s'enfuir tout nu. Ça, c'est Marc 14, 52. On sait que Marc, par ailleurs, il est appelé Jean-Marc. C'était un des disciples de... parents de Barnabas, et il y avait une dispute entre Paul et Barnabas au sujet justement du jeune Jean-Marc, parce qu'apparemment il n'avait pas fait l'affaire sur un premier voyage missionnaire, mais par la suite Paul dira Marc m'a été bien utile. Donc il y a une espèce de réconciliation qui est encourageante, de voir qu'on peut commencer en faisant des bêtises, mais que en royaume de Dieu il n'est jamais trop tard pour être efficace. Il y a donc beaucoup de miracles qui sont décrits, et on voit la marche progressive de Jésus de Galilée à Jérusalem. Donc il descend vers Jérusalem. C'est aussi, lorsqu'on l'étudie, on est surpris de la façon dont Jésus fait des miracles par compassion, parce que par amour, il ne peut pas s'empêcher de délivrer de la souffrance. Mais en même temps, il est souvent à dire « ne dites rien encore », mais comme s'il attendait le bon moment, et que d'être révélé trop tôt risquerait de mettre en péril sa mission. Un verset clé, d'abord un mot clé, c'est le mot « immédiatement ». C'est utilisé 41 fois, et à chaque fois, on voit l'action de Jésus qui partait ici, qui repartait, qui allait guérir les gens ici, qui traversait le lac pour aller avec ses disciples, mais voilà que la foule arrivait immédiatement, il faisait ci. Ça revient 41 fois donc. Le verset clé, c'est Matthieu 10, 45. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc. C'est une autre version, je crois, je lis. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Là aussi, de ces... Luc, c'était donc un compagnon de Paul. C'était un docteur, Paul le mentionne. les quatre évangiles. Le thème, encore une fois, c'est Jésus-Christ comme roi des Juifs, comme le Messie. Ça commence par, on a vu par la généalogie, le titre de roi des Juifs est souvent utilisé. Dans le chapitre 2 de Matthieu, il est question des rois mages. Qui étaient ces rois mages? En fait, il est intéressant de savoir que il y avait un reste à l'est de la Palestine, de la terre d'Israël, de l'Empire perse, qui s'appelait les Parthes. Et les Parthes se disputaient avec les Romains la Palestine, le territoire d'Israël, la terre promise. Les Romains avaient d'abord conquis la Palestine, je crois que c'était en l'an 48 avant Jésus-Christ, mais ils l'avaient reperdue aux Parthes. Et le roi qu'ils avaient nommé, c'était le roi Hérode, qui lui descendait des Idouméens ou des Édomites, donc de la tribu d'Ésaü, et non pas de Jacob. Lui avait séjourné pendant longtemps à Rome, en fait. Il était roi d'un pays, mais il était à Rome, il était chez les envahisseurs, parce que c'était trop dangereux de rester à Parthes, en terre promise, à cause de ces Parthes. Et ces rois mages, en fait, on pense que c'était de... Alors, il n'y en avait pas trois. Ça, c'est la tradition qui dit trois. Il y avait trois cadeaux. Il y avait la myrrhe, l'encens et l'or. Myrrhe, encens et or. C'était les descendants des grands satrapes perses. Ils étaient tous perses, sauf un. Qui avait été roi mage, hein, quelque part, avait obtenu ce genre de position? C'était le prophète Daniel qui avait servi un peu. C'est pour ça que on avait essayé de le coincer, de le brûler dans la fournaise. Tout ça, c'était parce qu'il avait obtenu le même statut qu'eux. Le roi mage, on retrouve ça dans Magistrat, c'était... Et là, il venait chercher le roi des Juifs. Et Hérode, une fois qu'il était revenu après que les armées de... C'était Pompée plutôt. Vespasien, c'était... Moi, je crois que c'était Pompée. Ils avaient repris la domination de la terre promise avant que Jésus ne naisse. Et ils avaient entendu parler donc de ce roi des Juifs qui devait naître, et lorsqu'ils demandaient à Hérode, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem en demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître, c'est le roi Hérode est tout inquiet parce qu'ils ne sont pas venus trois, ils avaient sans doute des troupes avec eux, et ça montrait qu'il cherchait le vrai roi des Juifs, que lui c'était un espèce d'imposteur, un idouméen qui avait le pouvoir. Mais c'est toujours cette idée du roi des Juifs, le vrai roi des Juifs. Il est aussi souvent question, encore une fois, du fils de David, qui est un titre messianique, plus que dans les autres évangiles. Le mot royaume apparaît près de 50 fois. Et encore une fois, il y a ces grands discours, il y a le sermon sur la montagne, des recommandations aux disciples au chapitre 10, lorsqu'il leur dit comment partir en mission. Il y a les paraboles du royaume des cieux au chapitre 13. Si vous cherchez les paraboles, c'est Matthieu 13, en général. Il y en a par ailleurs, mais... Chapitre 18, c'est les principes de base pour l'Église. Et puis 24-25, c'est le discours prophétique sur la fin des temps du mont des Oliviers. Une phrase clé, c'est l'expression « afin que les Écritures soient accomplies ». Ça revient 18 fois. L'évangile de Matthieu fait des citations directes de l'Ancien Testament 130 fois. C'est vraiment pour montrer que cette personne qui est arrivée à Jérusalem, c'est bien l'homme, Dieu, qu'ils attendent depuis des siècles, dont l'Ancien Testament parle en prophétie, et les Écritures sont accomplies. Donc il y a deux sections, il y a jusqu'au chapitre 16, c'est un peu la présentation du roi et de son royaume, puis son rejet par les Juifs, et puis la deuxième section, 16 à la fin, chapitre 28, 20, c'est le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile selon Marc, encore une fois, c'est fait pour les gens qui lisent rapidement dans le métro. Il n'y a pas de long discours, mais il y a beaucoup d'actions. Marc ne parle jamais de lui-même, il n'est pas mentionné dans les évangiles, sauf peut-être dans Marc 14, où il est question d'un jeune homme qui suivait Jésus de loin lorsqu'il avait été attrapé par les Romains, et qui, à un moment, pour échapper aux Romains, doit laisser le drap qui le recouvrait et s'enfuir tout nu. Ça, c'est Marc 14, 52. On sait que Marc, c'était aussi, par ailleurs, il est appelé Jean-Marc. C'était un des disciples un parent de Barnabas. Et il y avait une dispute entre Paul et Barnabas au sujet justement du jeune Jean-Marc, parce qu'apparemment il n'avait pas fait l'affaire sur un premier voyage missionnaire. Mais par la suite, Paul dira, Marc m'a été bien utile. Donc il y a une espèce de réconciliation qui est encourageante, de voir qu'on peut commencer en faisant des bêtises, mais que dans le royaume de Dieu, il n'est jamais trop tard pour être efficace. Il y a donc beaucoup de miracles qui sont décrits, et on voit la marche progressive de Jésus de Galilée à Jérusalem. Donc il descend vers Jérusalem. C'est aussi, lorsqu'on l'étudie, on est surpris de la façon dont Jésus fait des miracles par compassion, parce que par amour, il ne peut pas s'empêcher de délivrer de la souffrance. Mais en même temps, il est souvent à dire, ne dites rien encore, mais comme s'il attendait le bon moment, et que d'être révélé trop tôt risquerait de mettre en péril sa mission. Un verset clé, d'abord un mot clé, c'est le mot « immédiatement ». C'est utilisé 41 fois, et à chaque fois on voit l'action de Jésus qui partait ici, qui repartait, qui allait guérir les gens ici, qui traversait le lac pour aller avec ses disciples, mais voilà que la foule arrivait immédiatement, il faisait ci. Ça revient 41 fois donc. Le verset clé, c'est Matthieu 10, 45. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc, ça c'est une autre version, je crois, je lis. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Là aussi, deux sections. Les 10 premiers chapitres, on voit que Jésus est venu pour le service. On voit comment il se prépare, comment il reçoit de l'opposition. Il instruit aussi ses disciples au service. Et puis la deuxième partie, Jésus vient pour le sacrifice. On voit son rejet, sa crucifixion et sa résurrection. La deuxième partie, en fait, elle représente la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est... Encore une fois, c'est pas une biographie qui raconte tout, c'est un récit qui est destiné à montrer qu'il y avait un serviteur qui venait, un serviteur qui allait souffrir. Luc, c'était donc un compagnon de Paul, c'était un docteur. Paul le mentionne comme étant le médecin bien-aimé, un joli titre. Il est associé à Paul, on le voit ça quand on lit le livre des Actes à partir du chapitre 16. C'est intéressant parce qu'il y a un changement de pronom personnel. Il parle à la troisième personne en racontant les voyages de Paul, et à partir du chapitre 16, il s'associe au voyage en disant « nous avons fait ceci ». Donc il a participé au voyage missionnaire de Paul. Il a dédié ses livres, notamment le livre des Actes, à un certain Théophile. Alors on ne sait pas trop si c'était vraiment un homme qui s'appelait ainsi et qui aurait été un peu le personnage influent à qui il écrivait son récit. Le fait que Théophile, ça veut dire qu'il aime Dieu, ça, certains pensent que c'est peut-être un terme général pour dire que c'était une façon déguisée de dire que c'était un livre pour tous ceux qui aimaient Dieu, que de pouvoir lire le récit de la vie de Jésus et du livre des Actes des apôtres. Lui, Luc, il se tourne vers la société grecque, plus que vers les Romains ou les Juifs. Et on pense qu'il était lui-même un païen. Et donc, il est un des bénéficiaires de l'Évangile en tant que païen. Et son thème, c'est que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a comme tous, il a quelques paraboles qu'on ne trouve que chez lui. Il montre, en tant que médecin, il utilise beaucoup de termes médicaux. Il est fasciné par la naissance de Jésus à Bethléem. C'est lui qui le décrit la mieux, qui explique comment l'ange était venu expliquer que la puissance du Très-Haut recouvrerait Marie et que l'enfant qui naîtrait serait appelé Fils de Dieu. En tant que médecin, on sent qu'il est très sensible à cela. On a vu que sa généalogie, elle remonte à Adam, le premier homme. Il avait beaucoup de compassion devant les détresses humaines. Il parle beaucoup de guérison. Il était très, très fasciné, sans doute, en tant que médecin, de voir les gens se porter mieux après être guéris de certaines maladies. Il y a une chose très intéressante. Si vous voulez prendre des notes, quelqu'un a fait un parallèle entre l'évangile de Luc et le passage de Philippiens 2:6-9. Philippiens 2:6-9, vous savez que c'est le passage qui explique comment Jésus s'est humilié, lui dans la condition, ayant vous la pensée qui était en Christ Jésus, Philippiens 2:5, verset suivant, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors les premiers deux chapitres de Luc, qui parlent de Bethléem, ça serait l'homme qui est venu se dépouiller. En prenant chapitre 3, en prenant une forme de serviteur, ce serait à Nazareth. Devenant semblable aux hommes, ce serait la tentation. Il a fait l'expérience dans la tentation de Satan au désert. Vrai homme, il s'est humilié lui-même, ça c'est la Galilée. Ensuite, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, ce serait les chapitres 9 à 22, c'est quand il est en Judée. Même jusqu'à la mort de la croix, c'est Golgotha, c'est le chapitre 22 à 23. Et puis chapitre 24, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est Jérusalem, c'est les apparitions et son ascension. Ou c'est une façon de voir l'harmonie de l'Évangile avec les épîtres, qui sont des commentaires sur la vie de Jésus et sur son ministère. Donc ça termine les trois évangiles synoptiques. Et puis, le quatrième évangile, donc c'est l'Évangile selon Jean. Donc, certains pensent que ça a été écrit après la destruction de Jérusalem. Et Jean rapporte en plus grand nombre les paroles mêmes du Seigneur que tous les autres. On voit beaucoup de miracles dans certains des évangiles, mais c'est Jean qui dit le plus souvent « Voici ce que Jésus a dit ». Ceux qui étaient avec nous l'an dernier doivent se rappeler du verset clé. Clara n'est pas là pour le dire, mais peut-être Zoé s'en rappelle. Non ? Jean 20, 31. On pourrait dire qu'en fait, Jean, c'est l'évangile qui est le mieux construit. Parce qu'il nous donne exactement son but. Ces choses ont été écrites, verset Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous deux choses. Afin, premièrement, que vous croyez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Jésus est bien le Messie que l'Ancien Testament nous a promis, que le peuple juif attend depuis des millénaires, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et deuxième chose, qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, Jean, c'est pour ça que souvent on dit aux nouveaux croyants ou aux gens à qui on témoigne de lire d'abord l'évangile de Jean. Parce qu'il est fait pour montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que c'est pas juste un sage inspiré ou un grand homme. Non, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ça commence qu'au début, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et deuxième chose, c'est savoir qu'en ayant la foi en son nom, donc avec tout ce que ça représente, on a la vie éternelle. Il y a bien sûr un autre verset très connu, c'est lequel ? Dans Jean 3, 16. Hein, c'est ce qu'il veut dire ? En français ? Quelqu'un le connaît en français ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et souvent on cite ce verset sans se soucier du contexte, ce qui est un peu dommage parce que le contexte donc, du chapitre 3 de Jean explique beaucoup de choses. Dieu n'a pas en effet envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc Jean révèle Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Luc, c'était le Fils de l'homme. Matthieu, c'était le roi des Juifs. Et Marc, c'était le serviteur. C'est le Verbe incarné, la parole incarnée. Le mot « croire » revient 91 fois dans Jean, dans l'évangile de Jean. Pour avoir la vie s'est répétée 35 fois. On voit dans... Vous vous souvenez que c'est Jean qui a écrit aussi l'Apocalypse. En parlant d'Apocalypse, même si on l'avait étudié l'an dernier, mais vous savez sans doute qu'il y a le nombre 7 qui structure toute l'Apocalypse. Le nombre 7 qui est le nombre de ce qui est complet, ce qui est parfaitement terminé. Et c'est l'apôtre Jean, qui utilise le mot de le nombre 7, et il l'utilise aussi dans l'évangile de Jean. Cette fois, on va voir Jésus qui dit « Je suis quelque chose ». Et ça, c'est pour les Juifs de l'époque, ils savaient que c'était « Je suis ce que je suis ». C'était un écho aux paroles de Dieu prononcées dans le buisson ardent à Moïse qui demandait « Mais qui vais-je dire m'envoie lorsque je vais aller essayer de libérer mon peuple ?» Alors, dans Jean, Jésus se définit comme le pain de vie. Ça, c'est au chapitre 6. Celui qui mange... même s'il meurt, il ressuscitera, il aura la vie. Ça, c'est Jean 6, 35. tout le chapitre du passage du pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est aussi, il nous dit au chapitre 8, la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça n'a pas de mal à l'accepter, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Jésus a dit que nous devions être le sel de la terre et la lumière du monde, nous aussi, en reflétant cette lumière du monde. Il a dit « Je suis la porte », parlant de la porte des brebis. C'est intéressant, dans l'arrière-pays, on peut trouver encore des endroits de pâturage de brebis, de moutons. Il y a encore des grands enclos avec des pierres. On voit ça si on va se balader dans le Mercantour. Et il y a une porte, il y a plutôt un passage libre. Donc la nuit, on fait rentrer les moutons dans cet enclos qui est constitué de grosses pierres. Maintenant, les bergers, en général, dorment à côté dans leur petite hutte. Et ils mettent un filet en plastique pour bloquer les moutons. Mais à l'époque de Jésus, c'était le berger lui-même qui se mettait au travers de la porte pour bloquer la porte. Et donc, il fallait passer par-dessus son corps pour sortir ou pour entrer. Donc, il était là vraiment la porte des brebis. Et Jésus nous dit qu'il est la porte pour nous aussi. S'il nous protège, si nous sommes en lui, rien ne peut nous arriver quelque part. Il est le bon berger, il a dit « Je suis le bon berger ». Chapitre 10, verset 11. « Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. » C'est différent du mercenaire qui se fait payer, mais dès qu'il y a le loup qui arrive, il ne va pas se prendre de risque, il va partir. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie » lorsqu'il parlait à Marthe et Marie, après la mort de Lazare. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est Jean 14, 6. Il a dit aussi qu'il était la vigne, la vraie vigne. Ça, c'est dans Jean 15. « Moi, je suis le vrai cep ou la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il la retranche, et tous branche qui porte du fruit, l'émonde, il la taille afin qu'elle porte encore plus de fruits. » Donc en donnant ces déclarations, ces « je suis », Jésus s'affirmait très, très clairement aux Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament comme étant, se prétendant être le Messie et se prétendant être Dieu. On voit d'abord Jésus avec la foule dans les 12 premiers chapitres. Puis là, il fait des miracles, ou à ce qu'il appelle des signes. Encore une fois, les signes, c'était pour montrer que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il sache qu'en croyant, et que nous sachions nous aussi, qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Alors là aussi, il utilise la structure de sept. Il y a sept signes. Il y a l'eau qui est transformée en vin. Il y a la guérison du fils d'un officier royal dans chapitre 4. Il y a la guérison d'un infirme à Bethesda. Ça, c'est au chapitre 5, là où il y avait cette piscine. Et souvenez de cet homme qui aurait bien aimé aller se tromper dans l'eau, mais chaque fois qu'il voulait, il n'y arrivait pas à temps. Et Jésus le guérit de façon miraculeuse. Et lui, encore une fois, ceux qui étaient guéris allaient dire tout de suite ce qui leur est arrivé. Et ça causait c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, il est dit au verset 16 du chapitre 5. Parce qu'ils faisaient ça pendant le jour du sabbat. Et on voit qu'en fait, ces chefs religieux n'avaient aucune compassion pour les hommes, qu'ils s'abritaient derrière le légalisme. Il y a la multiplication des pains, ça c'est au chapitre 6. C'est l'occasion du « Je suis le pain de vie ». Donc il utilisait souvent les événements pour affirmer sa divinité. Chapitre 6, Jésus marche sur les eaux. Alors c'est des récits qui sont repris dans certains des autres évangiles. Matthieu et Marc parlent de ce miracle. Il y a la guérison d'un aveugle né. C'est l'occasion d'un épisode un peu humoristique avec les juifs, les officiels juifs qui demandent à cet homme est-ce que tu dis qu'il a fait un miracle? Il dit tout ce que je sais, c'est que je ne voyais pas et maintenant je vois. Et on sent qu'il plaisante un peu avec eux, il manie l'ironie parce qu'en fait il s'aperçoit que ces chefs religieux n'ont aucune puissance qui vienne de la part de Dieu. Par contre, il a rencontré le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il a rencontré Jésus-Christ. Et puis le dernier signe, c'est la résurrection de Lazare, le frère de Marie et Marthe. Donc il y a d'abord toute cette période de ministère public, les 12 premiers chapitres. Ensuite, il y a Jésus avec ses disciples. Et là, ça représente les chapitres 13 à 16, mais c'est seulement quelques heures passées avec ses disciples. C'est là qu'il leur annonce qu'il va envoyer le Saint-Esprit, qu'il doit partir, mais qu'il va préparer un endroit pour eux, qu'il est pas étonnant que le monde les haïsse, parce qu'ils ont haï, le monde a haï Jésus. Il leur annonce donc qu'il va envoyer l'Esprit-Saint, comment il va agir. Et puis la dernière partie, en fait, c'est, on pourrait dire que c'est Jésus avec son Père. Ça commence par le chapitre 17, la prière de Jésus à son Père, où il explique qu'il demande au Père de nous protéger, de ne pas nous ôter du monde, mais de nous protéger dans le monde. Et de nous garder du malin, c'est-à-dire de l'ennemi, le diable, de nous sanctifier par sa vérité. Et il donne l'indication tout de suite, ta parole est la vérité. Et puis il nous envoie en mission, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et il priait non seulement pour les disciples, mais pour tous ceux qui croiraient en sa parole. Et c'est une prière pour l'unité. Et puis après c'est le faux procès de Jésus devant les autorités, Pilate et Romains, la crucifixion, et puis la résurrection, et des apparitions de Jésus qui finit par donner des conseils à Pierre, une Pierre qu'il avait trahi, qu'il avait renié, en disant qu'il ne le connaissait pas à plusieurs reprises, le soir où Jésus avait été capturé par les Romains pour être supplicié. Et c'est là que Jésus dit à Pierre de prendre soin de ses agneaux. « Sois le berger de mes brebis, prends soin de mes brebis. » Et Jean termine en disant qu'il a fait beaucoup d'autres choses. Et on est convaincu, lorsqu'on a l'ensemble de tous les évangiles et qu'on voit un peu les éléments qui ont été relatés, il dit même, peut-être un peu par exagération, sans doute pas, « Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait ou les CD qu'on graverait. » C'est donc les quatre évangiles, trois synoptiques et l'évangile de Jean. C'est un peu les livres historiques du Nouveau Testament. Le grand livre historique, c'est le début de l'Église, c'est le livre des Actes dont on parlera, Dieu voulant, la semaine prochaine. Amen. Questions, des remarques? Oui. Alors, la généalogie dans Luc, c'est la généalogie en fait qui monte par Marie, parce que Élie, Élie, c'est le beau-père de Joseph et non pas son, son père direct. Parce que c'est dans Matthieu, on sait que le père de Joseph s'appelait Jacob. Oui, alors c'est... En fait, le mot qui est traduit par « on pensait », en grec, c'est « nomizo ». Nomizo, tu reconnais le mot « nomos », la loi, antinomique, antinomie. C'était par la loi qu'il était le père, donc c'était un peu le père dans la loi, « the father-in-law ». L'expression, non, c'était « il était comme on le pensait ». Comme on le pensait, c'est la traduction de. Alors, comme c'est traduit là, on a l'impression que c'était fils de Joseph comme on le pensait.